Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis. C'est parti. Je vais commencer par une anecdote bien déprimante, comme ça ensuite on n'en parle plus. On est fin 2017, ma mère tombe malade. Alors que je m'effondre, lentement, sûrement, je cherche du réconfort auprès de celle que je pensais à l'époque être ma meilleure amie. Silence radio. Au bout du rouleau, je la relance pour savoir ce qui se passe, alors que je pensais que tout allait bien depuis qu'elle s'était remise avec son copain. Le couperet me tombe dessus. Elle ne supporte plus ma négativité et prétend que je ne me réjouis pas pour elle. Le mot aigreur n'apparaît pas dans le message qu'elle m'écrit, mais pour moi, il ressort à chaque mot. Elle me dit qu'elle préfère qu'on s'éloigne. Tout ça pendant que ma mère commence sa chimio. 7 ans plus tard, j'y pense encore souvent, comme ce goût amer que cette amie a laissé dans mes pensées. Et aujourd'hui, amie auditrice, cette aigreur, on va s'en débarrasser. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Marine. On ne se connaît pas encore, mais tu peux m'imaginer comme un mélange sexy entre Clovis Cornillac et Romy Schneider. Je préfère te le dire, cet épisode, il est performatif et il portera sur l'aigreur. Et j'ai décidé, 1, de te tutoyer. D'avance, pardon pour la familiarité, mais je vais te parler d'un truc intime, donc on va pas faire semblant. Et de 2, de t'en mettre plein les oreilles aujourd'hui en mode son et lumière. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'émotion et dans ma quête personnelle contre mon aigreur.
Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis.
Ça me fait rire, ça me fait rire.
Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages.
J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore.
Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi? Mais je suis à fond.
Émotion.
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 Il y a 15 ans, quand on me demandait s'il y avait un avantage à vieillir, je répondais que j'avais hâte d'être aigrie en toute liberté.
Non mais s'il y a bien un avantage de vieillir, c'est d'être aigrie, sinon ça sert à rien. C'est
juste... Oh non,
mais t'es justement
aigrie.
Justement, sinon t'es juste vieille.
Non, tu peux être vieille et sexy, quoi.
Tu peux être encore plus sexy vieille.
Ouais.
Tu peux fermer la gueule de toutes les meufs de 20 ans sur ton passage.
Ouais, parce que t'es aigrie. Ouais.
Non, non. Mais non, c'est pas aigrie.
Toi, t'auras forcément l'air conne avec tes rides et le fait que t'as déjà
au fond de la salle en train de fumer ta clope.
La seule chose qui nous sauve, c'est qu'on est à 20 ans et qu'on a juste l'air d'être un peu biatch. Mais tu nous mets avec 10 ans, on aura juste l'air d'être aigrie.
La petite bouffonne que tu entends débattre avec ses copines et qui croit avoir la science infuse, c'est ton humble serviteuse. À l'époque, j'ai 20 ans, je viens de rompre avec un mec super, j'ai un groupe de punk et un melon de la taille des ventes de Taylor Swift. On doit être en 2009, et une brillante documentariste nous suit en tournée pour un court-métrage. Face à la caméra et au micro, j'ai une logorée qui me fait dire moult bêtises pour faire mon intéressante. Un tissu de trucs débiles, sauf ces quelques phrases. Car plus de 15 ans plus tard, le constat est sans appel. La Marine du passé a raison. À 37 ans, en coloc avec un vieux chien incontinent qui paie pas son loyer, dans un appartement qui donne sur le cimetière, mon aigreur est digne du dernier cornichon laissé dans la saumure. La raison de cette aigreur ? L'amour, amie auditorice. L'amour. Mais c'est hors de question que ça reste comme ça. Qu'est-ce que j'ai donc décidé ? De régler ça avec toi en travaillant et en enregistrant cet épisode d'émotion. T'es prêt ? On va chercher ensemble la réponse à cette question. Comment sortir de l'aigreur et réapprendre à trouver la vie aussi belle que Monica Bellucci ? En vrai, c'est quoi l'aigreur ? La définition la plus simple et la plus premier degré, c'est Valentin qui nous l'a donnée. Je dis « nous » parce que j'ai évidemment forcé ma sœur à m'aider à faire ce podcast. Elle s'appelle Héloïse et c'est elle qui se tape tout le montage. Mais retour à Valentin. Il a monté en 2019 la Fermentation Générale, une adresse super au cœur de Paris où il met des légumes dans des bocaux et du levain dans du pain. Ça leur donne ces petits goûts acides et aigres qu'on aime tant.
L'aigreur, c'est à la fois un peu piquant, on va dire, quand même. Il y a quelque chose comme ça, un peu tonique, assez vif, assez un peu surprenant, quoi. Dans un sens, ça peut être agréable comme ça peut être désagréable, en fait. C'est un peu paradoxal. Ça peut surprendre, donc il faut peut-être un moment pour s'y habituer. Mais de prime abord, ça peut être un peu fort. Pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu plus... qui montre qu'il y a eu quelque chose qui est passé, quoi. L'exemple type, c'est le vinaigre, hein.
Sympa. Je dois donc bien accompagner les salades. Mais ce n'est pas moi qui ai mis ce mot sur cette émotion, qui me colle dessus comme un vieux pansement trouvé dans un bac à sable. Ce sont mes proches qui ne savent plus comment me parler ou s'arranger pour me faire voir la vie en rose et qui se battent pour que je garde un peu d'espoir dans ma vie amoureuse.
Pour moi, le souci, c'est que ta vision du monde, en l'occurrence sur les relations amoureuses et le fait que tous les mecs soient juste des sacs à merde.
Elle, c'est ma pote Anastasia qui m'a envoyé une note vocale.
Comme en fait, toi, tu pars de ce postulat. Tu vas donner ta chance à des mecs qui n'en valent pas la peine juste pour que ton cerveau, il se conforte dans l'idée qu'ils sont tous comme ça et pour que tu sois, on va dire, un peu plus forte à la déception. Tu réagisses mieux, en gros, à la déception, un peu comme un vaccin, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tu vas tout le temps tomber sur des mauvaises personnes, en tout cas des personnes qui te conviennent pas.
J'ai un autre exemple qui m'a un peu alertée, entre guillemets, quoi.
Et là, c'est mon amie Jeanne.
De ce point de vue-là, c'est quand tu fréquentais quelqu'un et que tu avais dit dès le départ que ça ne durait pas plus de X mois. Et tu ne l'avais pas dit avec le ton de quelqu'un qui se protège, pas non plus avec le ton de la superstition, mais avec le ton de quelqu'un de résigné, quoi. Et en fait, j'avais été très surprise au milieu de ce qui semblait simplement être un moment bon à prendre. Ça m'avait étonnée, ouais, de saisir ce ton du verre à moitié plein, vaincu d'avance et qui auto-jaugeait en quelque sorte son bonheur.
Même mon pote Yann est saoulé.
Marine, c'est bien, fait le podcast, mais après l'aigreur, c'est fini.
À 37 ans, à deux doigts de congeler mes ovocytes et de choisir le premier type qui n'a pas de casier judiciaire, j'ai l'âge et donc le recul nécessaire pour voir que souvent, le célibat, et plus largement la vie, est une tartine au caca qu'on nous force à manger au petit-déj, au déjeuner et au dîner, et qu'en plus, c'est tous les jours que, comme dirait Jean-Pierre Bacri...
Tout le monde a décidé de me faire chier.
J'ai donc demandé à Aurélia Pérical, doctorante en philosophie, si on peut trouver une définition de l'aigreur chez certains penseurs. Désolée, mais moi, en terminale, j'écoutais pas la philo, alors j'essaie de me rattraper.
Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce concept d'aigreur, c'est que justement, ça fait pas partie des grandes émotions, on va dire, des émotions principales qui intéressent les philosophes. Il y a des occurrences du terme d'aigreur dans différentes constellations, on pourrait dire, de concepts. Évidemment, la constellation de concepts autour de la haine, de la vengeance, de l'agressivité, etc. Et puis, dans une autre constellation qui serait celle de la colère, où là, on la trouve aussi, disons, indirectement définie.
Moi, j'arrive pas vraiment à la décrire, l'aigreur. Des fois, je la confonds avec l'acidité ou l'amertume. Plein de goûts pas sympas dans la vraie vie. Pour moi, c'est le verre à moitié vide, les petites piques pas demandées sur certains sujets. C'est une anticipation de la merditude des choses. Ça donne aucune envie de se lever le matin et aucun espoir quand on rencontre quelqu'un. Et c'est quoi la définition d'un médecin ? J'ai demandé à Christine Barrois, psychiatre depuis plus de 30 ans.
Alors l'aigreur, c'est pas un diagnostic. En revanche, c'est une émotion qu'on peut trouver quand même dans la frustration, dans l'insatisfaction. Donc typiquement, ce qui fait souffrir les gens, c'est quand même quand les choses ne vont pas exactement comme on voudrait qu'elles soient. Et c'est ça qui peut générer de la frustration, de la déception et toutes ces émotions qui sont négatives. Et effectivement, cette aigreur, qui n'est pas une émotion très agréable. Je prends toujours l'exemple, moi, c'est du collégien qui revient avec une mauvaise note. Le parent qui ne va pas bien, il dit « Ah, c'est ma faute, je ne m'en occupe pas assez, je suis un mauvais parent, il va rater son année, il va rater sa vie, c'est ma faute. » Alors que le parent qui va bien dit « Bah, il n'a rien fait, on va aller trouver un prof. » Et donc, voilà, cette aigreur, elle peut arriver parce que je vois les choses négativement, j'ai ce prisme négatif de voir les événements.
L'aigreur peut donc être le résultat d'un trouble dépressif ou d'un trouble anxieux. Vu que je suis en dépression, je prends des cachetons contre les deux. Je ne saurais donc te dire, ami auditeurice, si c'est à cause de la peste ou du choléra. Mais je pense que quand on s'est pris de la part de la vie une bonne somme de gifles qui vont de la perte d'une amitié, en passant par des ruptures avec des bolos jusqu'à la mort de sa mère, quand on est têtu comme une vieille mule et qu'on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas, on offre peut-être à son quotidien des petites touches d'aigreur qui piquent un peu comme les cornichons ou les câpres dans une salade de riz. Mais alors, moi, comment je suis devenue aigrie ? Je suis partie à la recherche de mon premier souvenir de cette émotion, à la genèse. J'ai 6 ans, et je ressemble à un petit chou à la crème. Évidemment, mon voisin, qui devait avoir 8 ans, est tombé amoureux de moi. Il m'a écrit une belle lettre d'amour dont je me souviens encore, constellée de fautes. « Marine, depuis que je t'ai vue, je ne pense qu'à toi. Je t'aime. » « Je t'aime », E accent grave. J'attendais sûrement autre chose comme déclaration. Un truc au moins bien écrit par, je sais pas moi, le sosie de Leonardo DiCaprio, mais en version mineure. Le type s'était pas foulé niveau poésie. Déçu par cette première missive, je lui ai donc remis sa lettre dans sa boîte, en corrigeant les fautes d'orthographe. Un move d'énorme connasse. Et à 6 ans en plus, mais qui fait ça ? Sûrement la petite personne aigrie qui vivait en moi, qui a décidé de lui rendre manu militari son bazar et de faire comme si ça n'avait jamais existé.
En fait, c'est un peu le juge interne qui est en train de nous dire « c'est pas comme tu voulais, c'est pas ça qu'il fallait faire ». Et cette espèce de différence entre ce que je voulais initialement et la manière dont les choses se passent. Donc ce delta, un peu, ça génère une frustration et ça génère aussi une aigreur. C'est-à-dire que quelquefois, on a la pensée qui est là et on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Mais parfois, il y a des gens qui disent tout ce qu'ils pensent exactement et qui sont aigris.
J'ai toujours eu de grandes attentes amoureuses. C'est de là que commencent tous mes problèmes. Je rêvais du prince charmant ou d'encore mieux. La réalité m'a rattrapée sous la forme de cette déclaration un peu foireuse et pas du tout à la hauteur de mes attentes. Ce fut la première pièce dans ma petite tirelire de l'aigreur qui a continué à se remplir au fur et à mesure. Chaque mauvaise nouvelle, chaque coup du sort s'est ajouté au précédent. Au début, je me surprends à avoir une pensée négative. Et puis un jour, je me réveillais avec des cheveux blancs, un ou deux poils au menton, et je suis devenue un monstre qui ne croit plus en rien et qui jalouse les relations qui fonctionnent. Je suis restée trop longtemps infusée dans mon mal-être, imbibée comme un baba au rhum par ce sentiment d'amertume mêlé d'irritation d'après le Larousse. Un peu tristement, on se répète qu'on n'arrivera plus jamais à faire machine arrière. On est une meuf aigrie, et puis parfois on s'entête en espérant que ça changera peut-être la prochaine fois. Car ma vie sentimentale ne s'est pas terminée à 6 ans. Plus tard, je suis tombée amoureuse de toutes les personnes qu'il ne fallait pas. Patrick Swayze dans Dirty Dancing, Maxime, Robert, Bichente Lizarazu, Geoffrey, Ulrich, Adrien, Vitas, Stéphane, Gilles. La liste est longue entre les garçons de mon collège qui préféraient qu'on reste amis, les mecs du lycée sur lesquels je bavais alors qu'ils n'avaient jamais entendu parler de moi, et des mecs en poster que je rêvais de voir apparaître dans mon salon grâce à Fan 2, l'émission qui te permettait de rencontrer tes stars préférées. Il y a eu une pause dans ce cercle de la loose. J'ai roulé des pelles à des types pas désagréables, et puis j'ai eu à ma majorité une très belle relation qui a duré presque 3 ans, avec quelqu'un qui m'aimait énormément. Elle s'est terminée. Si j'avais réussi à trouver quelqu'un de bien une fois, c'est que ça pouvait se reproduire. J'y arriverais une deuxième, non ? Nous étions en 2008. Il y a 16 ans. Le souvenir de mon bonheur amoureux a dorénavant l'âge de s'inscrire au permis de conduire. Depuis, je roule à toute vitesse sur l'autoroute de la loose, faisant un stop à chaque arrêt pour prendre ma petite dose d'aigreur, notamment grâce à l'aide des sites de rencontres et de certains ploucs que je trouve dessus. Le célibat n'étant vraiment pas un truc dont on se vante quand on est une meuf, surtout quand on a 37 balais, puisque ça fait planer un sentiment de « Pourquoi personne n'en veut ?» J'ai un peu honte de ce tableau de chasse peu glorieux. Le type qui m'a présenté à tous ses potes, puis lourdé une heure après sur son paillasson, 5 points d'aigreur. Le type qui, à chaque fois qu'on se voyait, me décryptait l'intégralité de sa relation avec son ex, 7 points d'aigreur. Le type qui voulait qu'on reste amis alors que j'étais amoureuse de lui. Mais c'était plus important, l'amitié, et puis on pouvait quand même fricoter, ça fricote aussi, les amis. Bonus, 10 points d'aigreur. Le type qui avait déjà une meuf, on n'en avait pas parlé ? Ah ? 8 points d'aigreur. Le type qui, après un très beau date, me raconte qu'il part se taper un vieux plan cul, 13 points d'aigreur. Et le boss de fin, avec 40 points d'aigreur, le type que j'ai à peine vu parce que je sentais le poteau rose, et que je finis par retrouver dans tous les journaux parce qu'il a arnaqué une trentaine de meufs sous 3 personnalités différentes. Le pompon sur la Garonne. On a beau me dire « Oui, mais il t'a rien fait à toi au moins », le fait d'avoir été à deux doigts d'être une de ses victimes m'a grandement gonflée.
Alors, je pense que vis-à-vis du sentiment amoureux et de l'aigreur du sentiment amoureux, je pense qu'il faut, là encore, ne pas généraliser. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui se comportent très mal avec d'autres, qui sont en fait assez égoïstes. Moi, je pense que voilà, l'humanité est faite de plein de gens et peut-être que, voilà, au détour du hasard, on peut trouver quelqu'un qui peut être bienveillant, aimant, respectueux. Si, si, ça arrive, on peut.
Ok, Christine, j'avais besoin de cette piqûre de rappel. Et puis, il faut aussi que je me souvienne de toutes les jolies choses. L'amour que portait mon père à ma mère, qui l'a accompagné jusqu'au dernier moment. Le souvenir de matins passés dans les bras d'une belle rencontre. Les gens heureux. Il est temps que je me remette en route et que je reparte en quête du grand amour. C'est mon objectif de vie, moi, le love. Tout le reste, ça m'intéresse pas. Alors, quand la dépression m'est tombée dessus, à défaut de Pedro Pascal, je suis allée chez le psy qui m'a filé des cachets. J'en ai profité pour lui demander ce que je pouvais prendre aussi contre l'aigreur. Il a levé le sourcil et m'a dit que sémiologiquement, c'est-à-dire dans le lexique des maladies des médecins, ça n'existe pas l'aigreur. Ce n'est pas une maladie. Il a rajouté que ça pouvait naître plus facilement dans nos sociétés où on est conditionné à se comparer aux autres et à faire tout pour leur ressembler et rentrer dans une norme. Les réseaux sociaux sont horribles pour ça.
C'est vrai que les réseaux sociaux ne nous aident pas avec l'aigreur, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se compare beaucoup. Et puis, c'est vraiment une histoire d'envie, de jalousie. Et en plus, les réseaux sociaux ont cette capacité, c'est qu'on est au milieu du bal masqué. C'est-à-dire, je peux être un hater sur le fil de quelqu'un. Personne ne va me voir parce qu'en fait, je suis masquée. Et donc, ça veut dire que tout est permis. Ça veut dire qu'on peut tout dire, tout faire et qu'on peut vomir absolument toute son aigreur. Alors qu'auparavant, peut-être qu'il fallait quand même le dire en face et c'était un peu moins facile.
Après, on n'est pas forcément obligé de vomir son aigreur, on peut aussi l'utiliser. Parfois, j'arrive même à le voir comme un sentiment sympa qui a aussi des bons côtés. C'est un bout de ma personnalité, je suis persuadée que les gens aigris peuvent être très drôles. Ils portent un regard plein de sel et sans ambivalence sur le monde. Regardez Jean-Pierre Bacri. Être aigri aussi, c'est finalement avoir de l'espoir bien caché sous des couches de saloperie. On a de trop grandes attentes et encore beaucoup d'espoir, on pense que la vie pourrait être belle et que tout pourrait être mieux. C'est pas le cas, donc ça nous fout la haine et ça nous retourne le bide.
Donc oui, le côté, on pourrait dire, positif de l'aigreur, ce serait que peut-être que derrière chaque personne aigrie se trouve un bon sceptique et que ces personnes peuvent être des bons critiques et pas seulement projeter de façon indue un ressentiment subjectif, sans aucun fondement aussi. Si on regarde les contraires, on se demande quels sont les contraires de l'aigreur, on voit que ces contraires sont quelque part peut-être plus toxiques encore que l'aigreur elle-même. Il y a ce que je disais tout à l'heure, donc la positivité toxique, le côté « mais tout va toujours bien, il faut positiver, il faut toujours tout voir du bon côté, le verre à moitié plein, etc. » C'est aussi une manière de disqualifier le sens que peuvent avoir les affects négatifs. Et c'est peut-être cette positivité toxique qui est plus toxique encore que l'aigreur.
Cette fichue positive attitude. Pour Aurélia Pérical, l'aigreur n'est pas non plus le désespoir absolu.
Au contraire, on voit que l'aigreur a une sorte de force. Elle veut s'extérioriser, que ce soit, si on utilise donc la métaphore de la bile ou de l'estomac, cette bile ou cet estomac plein de fiel n'est pas produit par hasard. A aussi un sens et c'est un signe de vie aussi. C'est un signe que l'organisme a besoin de se délivrer de certaines toxines qui ont été stockées trop longtemps et qui, à être stockées trop longtemps et à ne pas pouvoir s'exprimer, deviennent de l'aigreur, alors qu'au départ, peut-être que c'est de l'indignation saine, peut-être que c'est de la colère légitime, peut-être que c'est de l'agacement qui a un sens, qui n'est pas forcément simplement absurde.
Eh bien moi, j'en ai fait ce podcast et newsletter de tout ce fiel. Pour le digérer, pour en faire quelque chose de joli. Mais que recherche la personne aigrie du coup? À dire des bêtises avec une pointe d'humour noir ou dépréciatif et à les faire lire à tout le monde?
Il y a plutôt quelque chose de l'ordre d'un aiguillon dans l'humour noir aussi, qui est une manifestation de l'aigreur, et une mutation positive, c'est-à-dire c'est une manière de mettre l'aigreur au service d'une cause X ou Y qui est plus intéressante que simplement la destruction ou que simplement la domination.
Mon aigreur a donc une utilité, comme par exemple faire rire les gens?
L'aigreur se prête particulièrement bien à ce genre d'objectif, parce qu'elle-même n'est pas une volonté de destruction, en fait. Donc il y a peut-être une puissance sous-estimée de l'aigreur, une puissance de résistance, à condition
que cette aigreur ne soit pas, j'allais dire, lestée d'un poids trop lourd qui empêcherait la personne aigrie de déployer cette force et qui l'empêcherait aussi de réfléchir en amont à comment, vis-à-vis de qui et dans quel but déployer ce fiel qui peut être très, 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 très utile pour la critique.
L'aigreur a donc ses bons et ses mauvais côtés. En tout cas, pour moi, ça m'aide à faire des blagues, mais pas à trouver l'homme de ma vie. Alors, est-ce que je vais de nouveau croire en l'amour et avoir le cœur aussi pur qu'un petit cachet de Javel ? J'ai redemandé à cette star de Valentin si c'était possible d'enlever l'aigreur des légumes déjà fermentés, avant de m'aventurer à faire ça avec ma petite personne. Peut-être par la cuisson ?
Il restera toujours l'acidité, je pense, comme la choucroute. La choucroute, c'est souvent cuit et recuit, mais ça garde toujours une acidité. Moi, je reconnais moins la choucroute quand elle est cuite que quand elle est crue, par exemple. Et les légumes, quand ils ne sont pas cuits, il y a vraiment tout. Enfin, il y a même le son, l'image, enfin, il y a l'odeur, il y a tout. Quoi. Il y a ce côté très odorant, comme ça, un peu appétant.
Oui, c'est vrai que sans l'aigreur, on perd un peu de sa personnalité. Je sais ce que tu traverses quand tu te fais cuire, choucroute. Et j'aimerais bien garder le son, l'image et l'odeur. Redevenir cru et sortir de cette aigreur. Alors j'ai demandé conseil au docteur Barrois.
Alors je pense que pour se sortir de l'aigreur, il faut essayer de le conscientiser. Se dire, voilà, moi j'aime pas cette émotion-là, c'est pas une émotion qui est jolie, c'est pas une émotion qui me porte, c'est pas une émotion qui me fait du bien. À ce moment-là, je peux me dire, bah, tiens, t'es en train d'être aigri, t'es en train de râler, essaye de réorienter. Et puis je trouve qu'il y a des pratiques qui peuvent être, par exemple, de bienveillance, de compassion et surtout d'autocompassion. Sois gentil avec toi-même. Ce que tu as fait de ton mieux, ou sois gentil avec les autres, parce que peut-être ils ont fait de leur mieux aussi. Il y a une espèce de, comme ça, de, dans la compassion et la, voilà, cette bienveillance. Loving kindness, je trouve, qui est plus, voilà, qui est une posture mentale qui est plutôt de se dire, bon, je vais être plutôt aimante et plutôt bienveillante, c'est meilleur pour ma santé.
Plus on devient compatissant, moins on a de risque de développer une démence. C'est ce que j'ai lu dans une étude de 2023 parue dans la revue Nature Aging. Je me suis donc fixé plusieurs objectifs, un peu comme dans Made. Je ne sais pas si tu te souviens de cette série documentaire sur MTV où des jeunes ados se fixaient 100 jours pour atteindre le rêve de leur vie. Ça pouvait être devenir cheerleader ou essayer d'être concierge. Personnellement, c'est de reprendre confiance en l'amour et en la vie. Bordel, c'est cucu quand on le dit. Le premier objectif, c'est d'accepter. Je me suis longtemps battue contre mon poids, mon caractère, mes émotions et je suis fatiguée en fait. Oui, je suis pas toujours un petit soleil. Oui, je pense souvent des saloperies, j'en dis parfois. C'est ok, tant que ça ne fait de mal ni à moi ni à d'autres personnes. Et il y a aussi des avantages à être aigri. C'est avoir au fond de soi de l'espoir. C'est croire encore à l'amour, à un monde meilleur. Pas pour le moment, c'est tout. Et pas pour moi si je continue à me laisser bouffer de l'intérieur. La vie n'est pas blanche ou noire. C'est souvent une teinte foireuse entre les deux. Et plus vite je la accepterai, mieux ça sera. Ça ne sert à rien de tenter de gommer cette émotion, de tenter de la cacher ou de tenter d'oublier pourquoi elle est là.
Là, une référence qui me semble intéressante, c'est la référence à Nietzsche, parce que souvent Nietzsche est présenté comme le penseur qui valorise l'oubli, ce qui fait qu'on en arriverait presque à se demander si la société ou le monde ou autrui nous demande en permanence d'oublier, est-ce que c'est bien sain de tout oublier ? Il y a peut-être, au contraire, des colères qu'il faut garder en soi, et dans ce cas-là, l'aigreur a ce rôle un peu de préserver une énergie d'indignation qui, sinon, serait perdue. Donc là, on pourrait presque se demander s'il ne faudrait pas remercier nos aigreurs, parce que c'est finalement le corps qui n'oublie pas. Et la dimension de véhémence dans l'aigreur, c'est ça aussi qui peut donner l'impulsion pour agir, pour parler, pour s'exprimer, pour trouver des soutiens, pour chercher d'autres personnes qui sont dans cette même situation. Rendre l'aigreur tabou, c'est aussi une manière de simplement détourner les yeux de tout un tas d'injustices, de tout un tas de situations inhumaines ou de mépris qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas justifiées.
Faut être honnête, ami auditoris. Ma situation amoureuse, elle pue la chaussette. Et c'est honnête de le dire, de le ressentir et d'avoir un peu mal au bide parce que ça marche pas. Un autre objectif, c'est de continuer de sortir de sa zone de confort et de retourner en date. C'est pas facile pour moi parce que ça marche souvent pas, les dates. Et ça confirme mon scénario intérieur que ma quête de l'amour, ça sert à rien et qu'il vaut mieux rester seule avec mon chien. Mais je dois me souvenir de ma mère qui me disait toujours quand j'avais le cœur brisé que c'était le mauvais jusqu'à ce que ça soit le bon. J'ai repris donc des dates avec des types sans arrière-pensée. Si ça se trouve, ça deviendra des amis. Si ça se trouve, je n'aurai plus jamais de leurs nouvelles. Baisser mes attentes en ce qui concerne les rencontres, c'est OK. Et puis enfin, le mieux, c'est d'éviter de me comparer aux autres. Ça, c'est pas simple quand on est entouré de gens super et qui sont heureux. Mais c'est leur vie, pas la mienne. Ils ont peut-être eu la chance de trouver leur partenaire de vie sur les bancs de l'école ou au détour d'une appli, mais il y en a d'autres aussi qui galèrent. Certains sont mariés avec des mecs qui écoutent encore Crazy Frog au premier degré. Et surtout, si vous avez besoin d'être accompagné pour vous débarrasser de votre aigreur, si ça vous pèse autant, n'hésitez pas à consulter. Les médecins sont là pour vous aider à affronter les choses au lieu de galérer tout seul. Perso, je le fais et je considère parfois mon ordonnance comme une petite lettre d'amour que je me fais à moi-même pour mon cœur.
Il n'y a personne qui est totalement exempt de ce sentiment-là. Il me semble qu'on sent au fond que ça vient d'une impulsion de vie.
De cette impulsion de vie est né ce podcast et je vais garder de l'espoir. Remercier et célébrer les petites victoires. Comme celle d'arrêter de se cacher derrière des textes et newsletters sur Internet et de prendre le micro pour parler de son aigreur. Attention, instant cucu. Merci à Louis Média, notamment Léna Coutreau, qui m'a permis de me sortir les doigts et de me confronter à cette émotion qui me bouffe. Merci à Clémence Relia qui a réalisé cet épisode. Et merci à toi d'avoir écouté jusque-là, ami auditeurice. Je me suis forcée à enlever les croûtes qui encombraient mes yeux pour porter un nouveau regard tout doux sur la vie et sur l'amour. Je te promets de m'y tenir. Merci à ma sœur Héloïse Normand de m'avoir accompagnée, aidée, enregistrée et supportée lors de la conception de ce podcast. C'est la meilleure. Et je finirai cet épisode avec mon 06 dans les commentaires et une citation pleine d'espoir que j'ai complétée. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, mais on attrape peut-être l'amour avec un podcast et une newsletter sur l'aigreur. La semaine prochaine, la journaliste Antonella Francini se demandera comment trouver le courage de dire les choses. Tu sais, quand on est face à une situation qui ne nous convient pas, mais qu'on préfère faire tout et n'importe quoi plutôt que de dire ce qui ne va pas.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.